إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، شيخ فخير، on commence donc aujourd'hui, inshallah ta'ala, cette série de cours sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai choisi pour ce premier cours et cette première assise de faire l'explication de la parole de l'unicité, l'explication de la ilaha illallah. La parole de l'unicité, la ilaha illallah, est une parole immense, légère sur la langue et lourde sur la balance. Et elle est en réalité la signification même de l'islam. C'est pour cela qu'elle en est le premier pilier et que par celle-ci, on entre dans l'islam. Cependant, cette parole, elle ne représente pas seulement des termes que l'on prononce avec la langue, mais elle a plutôt un sens et elle nécessite certaines choses. Elle a aussi des piliers et des conditions qu'il est indispensable pour le musulman de connaître. Et si l'objectif était simplement de la prononcer, alors tous ceux qui prononceraient cette parole seraient musulmans, car il est facile de dire « la ilaha illallah ». Mais cette parole immense a un sens, elle nécessite des choses et elle a des piliers ainsi que des conditions qu'il est indispensable de concrétiser, car elle ne peut profiter à celui qui la prononce en l'absence de cela. C'est pour cela que nous allons étudier son sens dans cette assise, incha'Allah ta'ala. Tout d'abord, cette parole a des noms et parmi ces noms il y a Kalimatul Ikhlas, la parole de la sincérité ou la parole du culte sincère. En effet, cette parole rejette l'association à Allah subhanahu wa ta'ala et elle affirme l'adoration d'Allah seul, sans associé. C'est pour cela qu'elle est appelée la parole du culte sincère, c'est-à-dire le culte sincère dans le tawhid, dans l'unicité, le culte sincère dans l'adoration, ainsi que le fait de s'éloigner de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est aussi appelée Kalimatut taqwa, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. La parole de piété dont il est question dans ce verset est « La ilaha illallah » car elle protège du feu celui qui l'a dit sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, car elle implique les œuvres de bien. Et la taqwa, la piété, désigne les œuvres de bien ainsi que les obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole, elle implique toutes les œuvres de bien, c'est donc la parole de piété. C'est aussi al-urwatul wuthqa, l'anse la plus solide, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا. Quiconque mécroit au tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et l'anse la plus solide dans ce verset est la ilaha illallah, car il y a dans ce verset le sens de la ilaha illallah. Quiconque mécroit au tarout, ceci est le sens de la ilaha. Tandis qu'il croit en Allah, ceci est le sens de illallah. Cette parole, elle est aussi celle qui sépare entre la mécréance et l'islam. Comme l'a dit l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il fut interrogé à son sujet. C'est-à-dire que celui qui la prononce tout en connaissant son sens et en mettant en pratique ce qu'elle implique, il devient alors musulman, il entre dans l'islam. Et quiconque refuse de la prononcer, ou alors quiconque la prononce sans connaître son sens, ou encore la prononce sans mettre en pratique ce qu'elle implique, alors celui-ci n'est pas musulman jusqu'à ce qu'il connaisse son sens et la mette en pratique aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Ceux-ci sont donc les noms de la ilaha illallah, la parole de l'unicité, la parole du culte sincère, kalimatul ikhlas, la parole de la piété, kalimatul taqwa, l'anse la plus solide, al-urwatul wuthqa, et la parole qui sépare entre la mécréance et l'islam. Et c'est cette parole qu'Ibrahim alayhi salam a fait perpétuer dans sa descendance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez. À l'exception de qui? À l'exception de celui qui m'a créé. Car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Ce verset, il contient également le sens de la ilaha illallah. Je désavoue totalement ce que vous adorez. Ceci est le sens de la ilaha. Et à l'exception de celui qui m'a créé, c'est-à-dire Allah. Et ceci est le sens de illallah. Et Ibrahim alayhi salam, il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. C'est-à-dire qu'il y aura toujours dans sa descendance des gens qui prononceront cette parole et ils ne la délaisseront pas tous et ne tomberont pas tous dans le polythéisme. Mais il y en aura parmi eux qui la prononceront et se tiendront droit sur celle-ci, même s'ils sont peu nombreux. Puis lorsque notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fut envoyé, il fut envoyé avec cette parole, avec la parole « La ilaha illallah » que son ancêtre Ibrahim, alayhi salam, a fait perpétuer dans sa descendance. Et comme vous le savez, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est un descendant d'Ibrahim, alayhi salam, et il a été envoyé pour appeler les gens à cette parole. Peut-être reviendront-ils, c'est-à-dire qu'ils reviendront à la parole de l'unicité qu'a fait perpétuer Ibrahim alayhi salam dans sa descendance. Et lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, nombre de personnes parmi la descendance d'Ibrahim revinrent à cette parole. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donc été envoyé pour appeler à la parole de l'unicité, ainsi qu'à sa concrétisation et sa mise en pratique. Et ceci est en réalité l'appel de tous les messagers alayhimus salatu wassalam. Ils ont tous été envoyés avec cette parole. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ » Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ » Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de Dieu digne d'être adoré en dehors de moi, adorez-moi donc. Tous les messagers, alayhimus salat wa salam, ont donc été envoyés pour appeler au tawhid, pour appeler à cette parole immense, la ilaha illallah. Mais Ibrahim alayhi salam, il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, et ce jusqu'à la venue de l'heure, même si la plupart des gens s'en détournent. En effet, grand nombre de personnes n'accordent aucune importance à ce qu'implique cette parole, malgré qu'ils la répètent quotidiennement dans leur adhkar. Ils multiplient sa prononciation, mais ne connaissent pas sa signification, ou alors ils n'y accordent aucune importance, à l'exemple des soufis. Ils ont des formules d'évocation dans lesquelles ils répètent « La ilaha illallah » des milliers de fois, matin et soir. Malgré cela, ils évoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole, elle ne leur est donc point profitable, car ils n'ont pas mis en pratique ce qu'elle nécessite. Ils la prononcent, ils la récitent, ils la répètent dans leur formule d'évocation, mais ils invoquent des morts. Ils implorent le secours des habitants des tombes. Ils obéissent aux gourous de leur confrérie qui leur instaurent des adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas légiféré. Ils ne prennent donc pas la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils la prennent seulement de leur gourou et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi ces gens, ils multiplient la prononciation de la ilaha illallah. Mais cela ne leur est d'aucun profit ni d'aucune utilité. Et parmi les soufis, il y en a qui ne la prononcent pas complètement. Ils ne disent pas « La ilaha illallah » mais ils disent seulement « Allah, Allah ». Ils répètent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que le prononcer de cette manière ne constitue pas une phrase profitable. Pire encore, d'autres ne prononcent même pas le nom d'Allah mais ils répètent seulement le pronom personnel de la troisième personne « Hu, Hu » c'est-à-dire « Il, Il » et ceci ne sert à rien et ne leur est point profitable. Il est donc obligatoire pour les musulmans de prêter attention à cela. Car lorsque le diable a su que cette parole est la parole de l'islam, la parole par laquelle les gens quittent la mécréance pour entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, et lorsqu'il a su que les gens désiraient prononcer cette parole et évoquer Allah par celle-ci, il les a alors détournés d'elle par ses ruses et ses insufflations jusqu'à les mener à ses œuvres insensées dont ils ne tirent aucun profit. Il est donc important de prendre garde à cela. D'autres personnes parmi les musulmans sont inattentifs à cette parole. Le diable les a distraits pour les détourner de celle-ci, alors ils ne la prononcent que très rarement. Ils n'évoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala par celle-ci et ils ne la répètent pas, alors que cette parole est lourde dans la balance. Alors que cette parole est très lourde dans la balance, il est donc important pour nous de nous habituer à prononcer cette parole et à la répéter tout en la concrétisant et la mettant en pratique. Car l'objectif, comme on l'a dit, n'est pas seulement de la prononcer avec la langue en ignorant son sens. Il est donc obligatoire que tu apprennes le sens de la ilaha illallah. Car si tu la prononces alors que tu ne connais pas son sens, tu ne pourras pas croire en ce qu'elle implique. Comment pourrais-tu croire en une chose que tu ignores? Comment pourrais-tu croire en une chose que tu ignores? Il est donc obligatoire pour toi que tu connaisses son sens afin d'y croire, afin que ton cœur croie en ce que prononce ta langue. Et il est indispensable d'apprendre et de connaître le sens de la ilaha illallah. Quant au simple fait de la prononcer par la langue sans comprendre son sens, alors ceci ne profite en rien et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, il ne suffit pas de croire avec son cœur et de prononcer avec sa langue, mais il est obligatoire d'œuvrer selon ce que cette parole implique, c'est-à-dire de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de délaisser l'adoration de tout autre que lui. La ilaha illallah est donc une parole que l'on prononce, à laquelle on croit et que l'on met en pratique. Ce n'est pas seulement une parole que l'on prononce. Et un groupe parmi les groupes de l'innovation et de l'égarement s'est trompé à ce sujet en prétendant qu'il suffit de prononcer cette parole et de croire en son sens sans qu'il soit nécessaire de vrai selon ce qu'elle implique. Ce sont les Murji'a, ceux qui ont exclu les œuvres de la foi et qui disent qu'il suffit de dire « La ilaha illallah » pour entrer au paradis même si la personne n'accomplit aucune œuvre, et ceci est un égarement évident. En effet, les hypocrites, ils prononçaient cette parole, mais Allah subhanahu wa ta'ala, que nous a-t-il dit à leur sujet? Il nous a informé qu'ils seront au plus bas fond du feu. Qu'ils seront au plus bas fond du feu. En dessous des mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, « Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min al-nar, wa lan tajida lahum nasira. » Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Les hypocrites, ce sont ceux qui extériorisent l'islam et cachent la mécréance en leur fort intérieur. C'est-à-dire qu'ils se font passer pour des musulmans alors qu'ils sont en réalité mécréants et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi ont-ils extériorisé l'islam et se sont fait passer pour des musulmans? Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine et que se réunirent autour de lui les muhajiroun venus de Mecca et les ansar, les habitants de Médine, l'islam devint alors plus fort. Et les musulmans, ils obtinrent la victoire à Badr face aux mécréants de Quraysh. À ce moment, les hypocrites, ils se retrouvèrent à Médine entre les muhajirines et les ansar qui avaient avec eux le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont opté pour une ruse qui est d'extérioriser l'islam afin de vivre avec les musulmans et de préserver leur sang ainsi que leurs biens. Ils ont donc extériorisé l'islam, mais leur cœur sont restés sur la mécréance. Les hypocrites, ils ont donc dit « La ilaha illallah » et ils ont en apparence attesté de la prophétie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet « Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah » Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu. » Allah sait que tu es vraiment son messager. Wallahu yashhadu inna al-munafiqina lakadhibun. Et Allah atteste que les hypocrites sont vraiment des menteurs. Ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabilillah. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Pour bouclier, c'est-à-dire derrière lequel ils se cachent. Les hypocrites, ils sont donc entrés en islam en apparence lorsqu'ils ont vu la force des musulmans, mais ils sont restés sur la mécréance intérieurement et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a placés au plus bas fond du feu, en dessous des mécréants, en dessous des adorateurs d'idoles, en dessous des athées, et ce à cause de leurs ruses et leurs tromperies. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne se rendent pas compte. L'hypocrite, il dit donc « La ilaha illallah », mais il est au plus bas fond du feu de l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans son noble livre. Une fois que l'on a compris cela, comment peut-on dire qu'il suffit simplement de dire « La ilaha illallah » alors que les hypocrites disaient cette parole, mais ils sont au plus bas fond du feu. Mais ils sont au plus bas fond du feu. Ceci est donc une preuve évidente que la prononciation de cette parole ne suffit pas, mais qu'elle doit être accompagnée de la croyance du cœur et des œuvres du corps. De la croyance du cœur et des œuvres du corps. De même qu'il est important de savoir que les hypocrites, ils priaient, ils donnaient des aumônes. Et certains d'entre eux sortaient même lors de certaines batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci n'était que dans les apparences et ils étaient en réalité mécréants dans leur cœur. Ils disaient « La ilaha illallah » mais cela ne leur a point profité. Il est donc indispensable de prononcer cette parole avec la langue tout en y croyant dans son cœur et en œuvrant selon ce qu'elle implique. De même, celui qui la prononce, il doit s'allier avec ses adeptes et il doit se désavouer de ses opposants. Et ceci est l'amour en Allah et la répulsion en Allah qui font partie des branches les plus importantes de la foi. Vous voyez donc que cette parole n'est pas une simple parole que l'on prononce, mais elle nécessite œuvre et croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque dit la ilaha illallah » tout en étant sincère, entrera au paradis. Et dans une autre version, tout en étant sincère dans son cœur. Et dans une autre version encore, tout en étant véridique dans son cœur. On voit donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a émis ici certaines restrictions. Et ceci prouve qu'il ne suffit pas de simplement prononcer la ilaha illallah, mais il faut que tu prononces cette parole de manière sincère et véridique, et ce afin de ne pas faire partie des hypocrites qui disent avec leur langue ce qui ne se trouve pas dans leur cœur. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque dit la ilaha illallah et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah ». Ceci est une précision importante. En effet, beaucoup de personnes disent « La ilaha illallah » mais ils ne délaissent pas l'adoration des tombes. Ils ne délaissent pas l'invocation des morts et autres parmi les formes de polythéisme majeur. Ceux-là ne profitent point de leur prononciation de cette parole car ils n'ont pas mécru en ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si on réfléchit bien, on se rend compte que ceci provient de l'ignorance de beaucoup de gens quant au sens de cette parole. Ils disent « La ilaha illallah » mais ils ne connaissent pas son sens. Alors comment pourraient-ils la mettre en pratique? La plupart des gens sont influencés par des prétendus gens de science qui n'accordent aucune importance à l'unicité dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup d'entre eux ont appris la croyance des Asha'ira ou autres parmi les gens de l'innovation qui restreignent le tawhid, l'unicité, à l'unicité dans la seigneurie. Ils disent la ilaha illallah et soutiennent que cela veut dire il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Ou encore ils disent nul n'est capable de créer en dehors d'Allah. Ceci est leur explication de la parole de l'unicité. Elle se restreint pour eux à l'unicité dans la seigneurie et ils n'abordent pas l'unicité dans l'adoration alors que c'est le sens même de la ilaha illallah. Dans leur livre, ils se concentrent sur l'affirmation de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il y avait un doute à ce sujet. Ils se concentrent sur le fait de prouver qu'Allah est le créateur, qu'Allah est le pourvoyeur, qu'Allah est celui qui donne la vie ainsi que la mort et ainsi de suite. Mais ils ne mentionnent pas l'unicité dans l'adoration. Ainsi leur croyance, elle ne dépasse pas la croyance des polythéistes de Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort? Et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dis alors, ne les craignez-vous donc pas? Ils reconnaissent donc la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils adorent autre que lui. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا هُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Les polythéistes, ils ne prétendaient pas que leur divinité créée. Ils ne prétendaient pas que leur divinité leur accordait la subsistance, mais ils prétendaient qu'ils étaient pour eux des intercesseurs auprès d'Allah. Et il y a une grande confusion à ce sujet. Et nombre de personnes se sont égarées à cause de cette confusion immense. Cette question est donc une question très importante. Il convient alors d'attirer l'attention des musulmans sur cela et de propager parmi eux le sens réel de la ilaha illallah, ainsi que ce que cette parole implique en termes d'actes et de croyances. C'est sur cela que doit se concentrer le prêche des gens de l'islam, afin de corriger ces croyances erronées répandues au sein de notre communauté. Nous allons donc maintenant voir, incha'Allah ta'ala, quel est le sens authentique et véridique de la ilaha illallah, comme l'ont démontré des savants, des gens de la sunna. Le sens de la ilaha illallah est en arabe la ma'bouda bihaqqin illallah, car al-ilah en arabe veut dire al-ma'boud, c'est-à-dire il n'y a pas de dieu en droit d'être adoré, sauf Allah. En effet, les divinités, elles sont nombreuses, mais leur adoration est nulle et rejetée, mais seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ » C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Ceci est donc le sens authentique de la ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette parole, elle repose sur deux piliers, la négation et l'affirmation. C'est-à-dire que tu nies l'adoration d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme l'adoration des fausses divinités parmi les idoles et autres. Et tu affirmes que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré, seul et sans associé. Et ces deux piliers sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Lorsque tu dis la ilaha, il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Tu renies ainsi l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est la négation. Puis lorsque tu dis illallah, sauf Allah, tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration, et ceci est l'affirmation. Et ceci sont donc les deux piliers de la parole de l'unicité. Quant à ces conditions, elles sont au nombre de sept. Quant à ces conditions, elles sont au nombre de sept. La science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, la soumission et l'acceptation. Et dans un but de clarification, certains gens de science ont ajouté une huitième condition qui est le fait de mécroire au tarot, qui est le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des savants ont dit que la clé du paradis est la ilaha illallah. Mais comme chaque clé, cette clé a des dents qui correspondent à ses conditions. Il est donc important de connaître ces conditions afin de pouvoir les remplir et les mettre en pratique. La première condition est donc la science, qui s'oppose à l'ignorance. En effet, quiconque ignore le sens de la ilaha illallah, sa prononciation n'est pas valide, car il ne connaît pas le sens de ce qu'il prononce. C'est pour cela que nombre de polythéistes, et ce jusqu'à nos jours, tombent dans le shirk, tombent dans l'association sans le savoir, car ils n'ont pas connaissance du vrai sens de cette parole. Ils disent la ilaha illallah, mais ils ignorent son sens et mettent en pratique ce qui s'oppose et ce qui annule cette parole. Ceci ne leur est donc point profitable. La deuxième condition est la certitude, qui s'oppose au doute. Ainsi, quiconque prononce cette parole sans aucune certitude, alors elle ne lui profitera point. Lorsque tu dis « La ilaha illallah », tu dois avoir la certitude que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la personne a un doute à ce sujet ou pense que autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut peut-être être adoré, alors cette parole ne lui est point profitable. La troisième condition est la sincérité ou le culte sincère, al-ikhlas, qui s'oppose au shirk, qui s'oppose à l'association. Ainsi, quiconque prononce cette parole doit vouer son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser toute forme de polythéisme. La quatrième condition est la véracité, qui s'oppose au mensonge. C'est-à-dire que tu dois prononcer cette parole tout en étant véridique et ne pas être de ceux qui la prononcent avec leur langue tout en la démentant par leurs agissements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La cinquième condition est l'amour, qui s'oppose à la répulsion. C'est-à-dire que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et que tu aimes les gens qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala, et tu réprouves le polythéisme ainsi que ses adeptes. Ton amour et ta répulsion sont donc en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas en autre que lui. Quiconque prononce cette parole, quiconque prononce la ilaha illallah tout en y croyant et en la mettant en pratique, alors tu l'aimes même s'il fait partie des personnes les plus lointaines de toi. Et quiconque s'y oppose, quiconque s'oppose à la ilaha illallah, tu le réprouves même s'il fait partie des personnes les plus proches de toi. Et ceci est donc la cinquième condition qui est l'amour. La sixième condition est la soumission. C'est-à-dire que tu te soumettes aux ordres et aux interdits. Tu te soumets aux ordres en les accomplissant et tu te soumets aux interdits en les délaissant. On voit donc à travers cela que les œuvres sont indispensables. Que les œuvres sont indispensables. La septième condition est l'acceptation qui s'oppose au rejet. C'est-à-dire que tu acceptes tout ce qu'implique cette parole et ceci se manifeste à travers les agissements du monothéiste. La huitième condition est le fait de mécroire au tarout, c'est-à-dire de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les idoles et les saints, les morts, les arbres ou les pierres ou autre encore. Et cette condition est en réalité comprise dans ce que l'on a mentionné précédemment, notamment à l'ikhlas, mais certains savants l'ont ajouté afin de clarifier encore plus ce point qui est très important et négligé par beaucoup de personnes s'affiliant à l'islam, et ce jusqu'à nos jours. Voici donc les conditions de la parole de l'unicité. Quiconque les accomplit a certes concrétisé son sens et il fera partie, inshallah, de ceux qui profitent réellement de la prononciation de cette parole. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux. Ainsi, si tu as compris cela, tu as alors compris la parole à laquelle a appelé ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les messagers avant lui, alayhi wa salatu wa salam, et tu t'apercevras alors que nombre de personnes s'en sont éloignées de nos jours. Wallahu al-musta'an. C'est pour cela, mes frères, qu'il est important pour nous d'appeler à cette parole, d'expliquer aux gens de notre entourage le sens de cette parole, ainsi que ses conditions et ce qu'elle exige en termes d'œuvres et de croyances, afin qu'ils corrigent leur compréhension de cette parole. Et ceci fait partie du prêche et de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la chose la plus importante à laquelle il convient d'appeler les gens. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la parole de l'unicité, la parole du culte sincère et de la piété, et on lui demande aussi de nous aider à la concrétiser et à y appeler, et de faire que les derniers mots qu'on le prononcera ici-bas soient la ilaha illallah wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra. Et on commencera inshallah ta'ala la semaine prochaine l'explication du livre al-usul al-thalatha, les trois fondements. Barakallahu fikum.